Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1993. Dans ce deuxième épisode, voilà ce que j'ai retenu. La droite qui revient au pouvoir, Bérégovoy qui se suicide, le danseur Nouriev qui meurt du sida, et la France qui ne se qualifie même pas pour la Coupe du Monde de foot.
L'année 1993.
En mai 1993, voilà 5 ans que François Mitterrand a débuté son second mandat de président de la République. Et ça fait 5 ans qu'il rame. Il a essoré de Premier ministre, Michel Rocard et Edith Cresson. Et à l'approche des législatives, il a mis en selle Pierre Bérégovoy. Mais ça ne suffit pas. Les législatives de mai 93 sont une débâcle historique pour la gauche.
Nous sommes en mesure de vous donner l'estimation réalisée par BVA et Bull pour France 2, Europe 1 et Paris Match. Vous allez voir apparaître les chiffres du vainqueur de ce scrutin 93. Et ce vainqueur s'appelle l'UPF, avec en tête le RPR 261 sièges, l'UDF 215 sièges, les divers droites 6 sièges. Cela fait donc 482 sièges sur 577. C'est énorme. Le Parti socialiste obtiendrait 68 députés contre 265 dans la précédente Assemblée. Le Parti communiste, 25. Il peut constituer un groupe parlementaire. Et enfin, le Front national, qui avait déjà un siège dans la précédente Assemblée, a désormais 2 sièges. Une véritable déroute pour la gauche et notamment pour le Parti socialiste qui avait, je vous le rappelle, une majorité relative dans la précédente Assemblée.
Au lendemain des législatives, naturellement, Bérégovoy doit rendre son tablier. Et le président du RPR, Jacques Chirac, fait savoir qu'il ne sera pas le suivant.
Votre choix s'impose à tous. Il s'impose au président de la République qui doit maintenant prendre ses responsabilités. S'il estime n'avoir pas d'autres conséquences à tirer de ce résultat, il devra nommer un Premier ministre qui aura toute la confiance de la nouvelle majorité. Votre choix s'impose aussi à cette majorité qui doit savoir dominer sa victoire. Le gouvernement que nous soutiendrons sera le gouvernement de tous les Français. Il devra agir avec détermination, mesure, et tolérance. Quant à moi, à la place qui est la mienne, je lui apporterai tout mon appui.
Et finalement, c'est Édouard Balladur, l'ami de 30 ans de Chirac, qui hérite de Matignon.
Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à monsieur Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État. Non seulement parce qu'il apparaît comme le plus apte à rassembler les différentes composantes de la majorité, mais aussi en raison de ses compétences. Je souhaite qu'il soit en mesure de former une équipe gouvernementale solide et cohérente dans les plus brefs délais.
Le président de la République a bien voulu m'inviter à venir le voir. Il m'a fait part de sa décision de me nommer Premier ministre. Je l'ai accepté.
Et François Mitterrand connaît sa deuxième cohabitation. Et autant vous dire qu'à la télé, les guignols de l'info et le bébé de show de TF1 se régalent.
Et voici le bébé de show pour les RIR, les socialos.
Les RPR craquent et les fachos.
Ce sont tous des rigolos.
C'est moi qui choisis.
Eh bien, dans ce cas-là, c'est vrai. Ne commençons pas à nous disputer. Tu choisis, mais en tant que chef de la majorité, j'exige que tu choisisses celui-là.
Oh, celui-là, oui. Bon, qu'est-ce qu'il sait faire?
On ne sait pas très bien. Pour l'instant, il parle.
Hein? Et il parle longtemps?
Eh bien, tant qu'on ne l'arrête pas. Tu vas voir.
Eh bien, nonobstant, l'opinion de mon chef de file est, pour l'instant, complice, chiracone, je suis totalement partisan de ton maintien à l'Élysée pendant 2 ans.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il faut qu'il se taille le plus rapidement possible pour que je prenne sa place.
Je ne pense pas que ce soit en ces termes qu'il faille envisager l'avenir.
Brocardé de toutes parts, les socialistes se retrouvent aussi au cœur d'un scandale qui touche le Premier ministre sortant, Pierre Bérégovoy.
Nos confrères du Canard Enchaîné révèlent qu'en 1986, il avait emprunté 1 million de francs sans intérêt à l'homme d'affaires Roger Patrice Pelat, celui-là même qui était inculpé de délit d'initié dans l'affaire Péchinet.
Un prêt destiné à acquérir un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Mais le problème, c'est que Pierre Bérégovoy n'a pas tout remboursé. Et dès lors, ce prêt ressemble à un pot de vin, même si Bérégovoy s'en défend.
Je n'ai rien à me reprocher. J'ai accepté ce prêt sans intérêt parce qu'il m'était proposé par un ami, ce qui prouvait que je n'avais pas, disons, les moyens d'acheter mon appartement aisément. Et je le répète, jamais M. Pelat ne m'a demandé quoi que ce soit. Pour le reste, à chacun de juger en conscience. Vous me connaissez, l'opinion me connaît, je n'ai jamais accepté de dispenser une faveur quelconque à qui que ce soit, je continuerai.
L'année 1993.
En mars 1993, le Parti Socialiste essuie une cuisante défaite aux élections législatives. Le Premier ministre socialiste Pierre Bérégovoy est remplacé par Édouard Balladur. Mais dans la foulée, Bérégovoy se retrouve au cœur d'un scandale, car quelques années plus tôt, il a accepté un prêt de l'industriel Roger Patrice Pelat, qu'il n'a pas totalement remboursé. Ça ressemble à un pot de vin. Dans la tourmente, Pierre Bérégovoy se réfugie dans sa ville de Nevers, dont il est maire, jusqu'au samedi 1er mai 1993.
Donc nous avons appris un peu après 19h que l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy avait tenté de se suicider près de la ville de Nevers, dont il est le maire, en se tirant une balle dans la tête avec le pistolet de son garde du corps. Les circonstances, bien entendu, nous allons les voir dans quelques instants. Notre reporter Jean-Noël Tournier est tout de suite parti pour Nevers, où nous l'appellerons le plus rapidement possible. C'est un hélicoptère qui transporte Pierre Bérégovoy dans le coma jusqu'à Paris, sans doute pour être hospitalisé à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et c'est là qu'on a appris donc, que l'ancien Premier ministre avait tenté de se suicider en se tirant une balle dans la tête avec l'arme de son garde du corps.
Et 3 heures plus tard, c'est officiel. Pierre Bérégovoy est mort.
Monsieur Pierre Bérégovoy est décédé le samedi 1er mai 1993 à 22h15 au cours de son transfert de l'hôpital de Nevers à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce.
Dès lors, les personnalités politiques quittaient une à une l'hôpital. Laurent Fabius, Edmond Alfandéry, Charles Pasqua. Le dispositif de sécurité était levé petit à petit. Devant l'entrée principale, sous la pluie, ne restait qu'une rose et un bouquet de violettes.
Europe 1 tente alors de reconstituer la dernière journée de l'ex-premier ministre.
Moi, je suis vendeuse de muguet ce matin midi. Je l'ai vu, il est venu m'acheter un bouquet de muguet. Et il m'a dit, j'achète un bouquet de muguet pour ma femme. Et je l'ai vu triste. Très triste. Il est parti, il n'avait pas le sourire comme il l'avait les autres années.
Pierre Bérégovoy semblait triste. Impression confirmée dans son discours du 1er mai.
Monsieur Bérégovoy ne semblait pas vouloir prolonger la manifestation. Il a été courtois mais bref dans son discours, ayant des apartés amicales avec les uns ou les autres, mais relativement distants.
Il vous semblait fatigué ?
Il semblait pas être là. Bon, il était absent. Alors qu'habituellement, on a connu des réceptions à la mairie de Nevers où l'ambiance était plus chaleureuse et en tout état de cause où ça se prolongeait dans le temps. Là, on a vraiment eu le sentiment que fallait pas que ça dure.
Après cette cérémonie du 1er mai, en fin de journée, Pierre Bérégovoy a demandé à son chauffeur de le conduire en porte-canal.
Une fois arrivé sur place, il a demandé à son chauffeur et à son garde du corps de sortir de la voiture sous prétexte qu'il avait un coup de téléphone important à passer. C'est là que Pierre Bérégovoy a pris l'arme dans la boîte à gants. Ensuite, il a dit à son chauffeur et à son garde du corps qu'il voulait marcher seul. Il s'est éloigné de la voiture sans que les deux hommes ne se doutent de rien et c'est là qu'il a retourné l'arme contre lui.
À l'annonce de la mort de Pierre Bérégovoy, les Français sont sous le choc, tout comme l'ensemble de la classe politique. Le socialiste Jean-Pierre Chevènement s'exprime le lendemain du drame.
Pierre Bérégovoy, en mettant fin à ses jours, vient d'accomplir un geste tragique, qui
qui témoignent, chacun le mesure, de sa souffrance et de sa solitude. Chacun mesure que cette tragédie personnelle est aussi la tragédie de toute la gauche. Elle est, par conséquent, aussi la nôtre.
Bien sûr, on suppute sur le sens du geste de cet homme. Ici Bernard Bosson, le nouveau ministre des Transports.
Je pense que la fatigue du poste de Premier ministre et des attaques personnelles qui ont été faites, ils sont sans doute pour beaucoup. Je suis infiniment triste pour ce qu'il représente. Je crois que c'est un socialiste honnête, un adversaire politique pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai été bouleversé, vraiment. Je suis infiniment triste. Quelles que soient nos différences d'appréciation, je trouve ça horriblement triste. Et j'allais dire que l'affaire du million démontre à la fois une faiblesse, il n'aurait sans doute pas dû l'accepter, et aussi le résultat d'une immense honnêteté. Je crois que cet homme est honnête. Quand j'ai appris ça tout à l'heure, j'en étais très profondément choqué. Je trouve qu'on puisse être amené à cela dans la vie politique est anormal.
Un suicide, voyez-vous, est souvent inexplicable. Mais certains pointent du doigt les émissions satiriques, comme les Guignols de l'Info ou le Bébé de Show de TF1 qui l'aurait fait craquer. Du côté du Bébé de Show, l'émission est suspendue pendant une semaine. Et l'un de ses auteurs, Jean Amadou, s'en explique chez Pascal Clark sur Europe 1.
Alors le Bébé de Show est suspendu pendant une semaine. C'est un hommage évidemment à Pierre Bérégovoy.
Oui.
La décision est venue, j'allais dire, tout naturellement.
Oui, c'est une décision collégiale. Comme le Bébé de Show est très, très politique, et il n'est que politique, on n'avait pas envie de se marrer avec la politique cette semaine. Voilà.
Alors, un suicide appelle beaucoup de questions. Chacun tente d'amener des réponses. Et dans l'air, il y a comme une mise en cause d'une certaine presse, et puis peut-être aussi des caricaturistes. Est-ce qu'on, à un moment donné, on se sent visé?
Oui, on s'est senti visé, indiscutablement, depuis le suicide de Pierre Bérégovoy. D'abord, on s'est senti visé parce que les mots ont été prononcés. Je crois que c'est une sorte de récupération qui est assez médiocre, il faut bien le dire, parce que c'est toujours extrêmement facile de mettre en cause à la fois les journalistes et les satiristes quand il y a des histoires comme ça. Mais la satire politique, elle est le corollaire obligatoire de la démocratie. D'un homme comme Bérégovoy, de la stature de Bérégovoy, de l'intelligence de Bérégovoy, pouvait se suicider parce qu'il a été brocardé dans le Bébé de Show pour un prêt de 100 millions anciens, c'est vraiment le faire passer pour un imbécile. Et je ne crois pas que le satiriste politique ou même le journaliste politique ait une responsabilité là-dedans. Ou alors il faut tout interdire, il faut demander à Cabu de plus dessiner.
Finalement, Jacques Boutet, le président du CSA, clôt la polémique en prenant la défense des satiristes.
Je crois que c'est le propre de la caricature. D'exagérer parfois excessivement un certain nombre de traits ou un certain nombre de faits. Je veux penser que le public ne s'y trompe pas et que le public sait faire le départ entre ce qui est une caricature parfois un peu outrée, parfois sans doute trop poussée, et la vérité. Et que ces émissions n'ont jamais prétendu être à l'évidence des émissions d'information. Mais c'est vrai qu'il faut y faire très attention, c'est de la responsabilité de chacun, c'est de la responsabilité des journalistes, c'est de la responsabilité des animateurs, mais plus généralement de chaque Français. Quel est le Français qui n'est pas souvent porté à travers une information à la développer et pour sa part à faire courir la rumeur, hein.
Donc pas de rappel à l'ordre aux auteurs des Guignols ou du Bébé de Show?
Je ne crois pas que le CSA envisage une telle mesure, non.
Aujourd'hui, le long du chemin de halage où l'ex-premier ministre s'est suicidé, une stèle de granit rose lui rend hommage avec ces mots. Ici, le 1er mai 1993, un juste a retrouvé la paix, Pierre Bérégovoy. Dans la nuit de ce monde, le juste brillera.
Passer sous ma porte, je comptais vivre fort, et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap, Je secouais la tête et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé, errais pendant des jours. Trop des chemins s'ouvraient, trop des questions en retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire, ou ce qu'il ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas, je crois j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Que je ne voulais pas. Je ne voulais pas.
C'était le Suisse Stéphane Escher avec son tube de 1993, Des hauts et des bas.
L'année 1993.
Le 6 janvier 1993, Rudolf Nureyev, le plus grand danseur classique moderne, meurt emporté par le sida. Nureyev, de nationalité russe, avait dirigé le ballet de l'Opéra de Paris pendant 6 ans. Il était tombé amoureux de Paris lors d'une tournée avec le ballet de Saint-Pétersbourg en 1961. Et il avait profité de cette tournée pour fuir l'URSS et trouver asile en France. 9 ans plus tôt, Jean-Pierre Elkabbach l'avait reçu sur Europe 1.
Rudolf Nureyev, je suis heureux de vous avoir. Il est assez difficile d'ailleurs de pouvoir vous rencontrer parce que vous êtes tout le temps en train de danser. Pour les Français, votre nom, c'est toute une histoire. Votre arrivée en Occident, il y a 23 ans, l'exil, vos qualités de danseur et votre caractère qui ont fait de vous une star de la danse. Aujourd'hui, vous êtes le patron du ballet de l'Opéra de Paris. C'est une situation confortable, c'est bien ?
Quelquefois, oui. Mais aussi, des fois, il y a grande difficulté. Vous voyez, il y a 150 danseurs. Il y a 2 groupes qui on doit diriger, donner les répertoires, placer sur ce plan de travail.
Surtout que vous aimez le travail et vous aimez y payer de votre personne. On y reviendra. Vous avez eu Rudolf Nureyev chez les écrivains, les artistes, des adeptes passionnés. François Sagan, par exemple.
La beauté absolue de ses gestes et la force, l'espèce de personnalité qu'on sent dans chacun de ses gestes. Il a tous les bras, le cou, la nuque, le dos, qui est extrêmement élancé, très, très fin, très aristocratique. Et puis là, ces jambes extrêmement puissantes, ces hanches, c'est comme quelqu'un qui partirait de la terre, comme un arbre, qui à mesure que l'arbre s'élève, devient de plus en plus fin, de plus en plus élancé, avec des racines plus puissantes, et en haut, la sève qui jaillit et qui fait cette espèce de grâce du corps, du torse.
Nureyev est mort. Et il a lui-même organisé ses funérailles. Il ne souhaitait pas de cérémonie religieuse, seulement un hommage civil, chez lui, à l'Opéra Garnier de Paris. Brigitte Benkemoun y est présente pour Europe.
C'est dans les yeux que se lisent les chagrins. Sur les plus hautes marches du grand escalier de l'Opéra, Isabelle Guérin cache ses larmes dans ses mains. Autour d'elle, d'autres posent un regard absent sur des candélabres allumés en plein jour. Autour du cercueil de bois clair, les 6 danseurs étoiles qui l'ont porté jusque-là pleurent en silence. Sur les marches de l'escalier, les jeunes élèves, alignés 1 par 1, baissent les yeux tristement sur les bouquets de chrysanthèmes posés à leurs pieds. Plus bas, sous la coupole, la famille, les proches, les amis. Patrick Dupont, Zizi Jamère, Franco Zeffirelli, Leslie Caron, Roger Ruggero Raimondi, Patrice Chéreau, Jack Lang, François Léotard et Jean-Claude Carrière, les yeux fermés, pour retrouver d'autres images de Nureyev.
Je garderai l'image de lui la nuit chez lui, travaillant inlassablement avec Sylvie Guilhem, avec une cassette de Margot Fonteyn pendant 3 heures pour un simple mouvement d'un doigt.
La cérémonie d'hommage à Nureyev est très émouvante.
Et quand l'hommage se termine, 6 danseurs émus soulèvent le cercueil, le convoi quitte Paris pour Sainte-Geneviève-des-Bois et devant l'opéra, comme tant d'amis, Pierre Berger reste un peu perdu.
J'ai trouvé cette cérémonie, je crois, belle et juste surtout, très juste, c'est ce qu'il fallait. J'ai beaucoup aimé tous ces poèmes lus dans différentes langues de l'Europe, qui étaient après tout les langues dans lesquelles Rudolf avait baigné. Je pensais à rien, je pensais que j'avais perdu un ami, je pensais que c'était difficile, voilà.
Et en voyant tous ces jeunes danseurs bouleversés eux aussi?
Oui, vous savez, ces jeunes danseurs, ils lui doivent tout, ils lui doivent beaucoup. Parce que sans Nureyev, le ballet de l'Opéra de Paris ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Une foule d'anonymes est là, aussi, pour un dernier adieu au seigneur de la danse.
J'ai pas dormi cette nuit pour être sûr d'être là à l'heure. Mais il fallait que je vienne. C'est trop beau, la danse.
Et cette branche que vous tenez à la main, vous...
Je l'ai ramassée par terre.
C'était parmi les fleurs qui lui avaient été offertes.
Elle va aller dans un livre.
Poussière d'étoiles, souvenir de légende.
Live par Shadé Adou.
L'année 1993.
En 1993, l'épidémie du sida fait des ravages. En France, plus de 15% des décès des 25-34 ans sont dus à la maladie. Des médicaments existent, mais ils sont très chers et très mal remboursés par la sécurité sociale. Les associations militent pour une prise en charge à 100%. Et pour se faire entendre, l'une d'elles, ACT UP, choisit l'activisme spectaculaire.
Ce matin aussi, place de la Concorde à Paris, cette manifestation qui était organisée par des militants du mouvement ACT UP, n'est-ce pas ?
Oui, ACT UP de lutte contre le sida. Ils avaient recouvert l'obélisque de la Concorde d'un immense préservatif rose et avaient momentanément rebaptisé la place, place des morts du sida. Témoignage de cette jeune femme recueillie ce matin par Jean-Noël Tournier.
Moi, je viens de Vernay-les-Bains, d'une station thermale, et je suis invitée à l'Assemblée à 10h. Et alors, je regardais en face, je me suis dit, mais il y a quelques années que je ne suis pas venue à Paris, je ne vois plus l'obélisque. De loin, je me disais, est-ce qu'ils font des travaux ? Mais je disais quand même, l'obélisque n'a pas disparu comme ça.
Et de près, vous avez vu ce que c'était ?
Oui, j'ai vu que c'était pour le sida, j'ai vu que c'était un préservatif. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'avec ce qui se passe maintenant et tout, nous, sur Perpignan, il y a aussi, dans notre hôpital, dans nos hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui ont le sida. C'est vrai que c'est dramatique. Hein.
Donc vous êtes plutôt d'accord ?
Oui, parce que je crois qu'il faut y aller un peu plus, hein, parce que là, je ne sais pas, notre jeunesse, ce qu'elle va faire. Hein. Moi, je suis d'une génération encore qui n'a pas connu ça, mais là, maintenant, ça devient catastrophique.
Hein. Mais je suis arrivée du Quai d'Orsay, et alors j'ai vu l'obélix tout de rose vêtu, alors ça m'a surpris un peu. Je trouve que c'est une bonne idée, en fait, sur l'obélix, c'est nécessaire, quoi. Il faut que ça passe dans les mœurs, c'est obligatoire. Si on veut vivre et aimer, je crois que c'est nécessaire.
Le 6 décembre 1993, le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, fait un geste. Il baisse le prix des préservatifs de 4 francs à 1 franc.
C'est important de se préserver, donc il faut acheter des préservatifs. Pour acheter des préservatifs, ça coûte relativement cher, surtout aux jeunes. Et donc, les préservatifs à 1 franc, c'est une bonne chose.
C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, c'est pas en les mettant aussi cher que ça. Ouais. Ça marchera.
Tout le monde pourra se payer des préservatifs et ça permettra de limiter le sida, hein, j'espère.
Au Festival de Cannes 1993, l'artiste américaine Liz Taylor organise une grande soirée du cinéma contre le sida. Il s'agit de récolter des fonds. Et en France, son amie Lynn Renault relaie son combat.
C'est dramatique parce que peu importe comment le fléau a commencé, peu importe si c'était les marginaux, on n'en est plus là. Maintenant, c'est au-delà des marginaux, c'est tout le monde, ça peut frapper chez vous, chez n'importe qui, plus personne n'est à l'abri. Et je mènerai ce combat et je le mène du fond du cœur parce que je me suis toujours imaginée mère et grand-mère. Et donc, c'est pour les jeunes. Les jeunes, c'est comme je le disais tout à l'heure, les jeunes, c'est l'espoir, les jeunes, c'est demain. Donc, c'est pour eux qu'il faut vaincre absolument ce sida. Il faut gagner ce combat. Parce que sans jeunes, il n'y a plus de demain.
En 1993, au cinéma, un film se fait écho de cette génération sida, Les Nuits Fauves 2 et avec Cyril Collin. Ce premier film, autobiographique, raconte l'histoire d'un jeune parisien bisexuel qui apprend sa séropositivité et qui, malgré la maladie, multiplie les aventures, notamment avec une femme amoureuse de lui, incarnée par Romane Bourringer.
Mais t'as pas honte de te vautrer là-dedans comme une femelle ? T'as pas de fierté ?
Ma fierté à moi, c'est de l'aimer comme il est.
Well, it's summer, it's sad, and the moon is for everyone.
Je vais être avec toi.
Bah, je suis là.
Non, t'es pas là.
Mais chier, bah putain, pourquoi ça se passe comme ça ? Merde !
Mais c'est toi qui fait que tout se passe comme ça ! C'est toi !
Mais t'es qui en fait ?
Je suis moi. T'aimes les garçons ?
Tu crois ?
Avec les nuits faux, le thème du sida est évoqué pour la première fois frontalement et crûment dans le cinéma français. Mais Cyril Collard ne veut pas que l'on retienne seulement ça de son film.
Pour moi, le sida n'est pas le sujet du film. Donc je trouve que, bien sûr, on est... Enfin, je veux dire, j'espère que si on est concerné par l'histoire, c'est par autre chose aussi dans l'histoire. C'est-à-dire c'est par des choses plus universelles qui sont...
C'est l'histoire d'amour, très
sont,
fort.
Oui, qui, sont les, hein. qui est avant tout l'histoire d'amour.
Mais tout de même, quand même, quand on sort de ce film, on est quand même bouleversé par cette maladie, quand même.
C'est-à-dire, je crois qu'on est, bouleversé... Enfin, on est bouleversé, c'est pas à moi de dire ça, mais je crois qu'on est touché, en tout cas, par le destin du personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, la menace de la maladie est quelque chose qui pèse sur lui, qui le met à nu, qui le modifie, qui le fait évoluer et qui est comme ça inscrit très fortement dans son destin.
Ce film d'auteur est un énorme succès. 2 800 000 spectateurs. Mais dans la foulée tombe une terrible nouvelle. Le 5 mars 1993, 5 mois après la sortie du film, Cyril Collard meurt du sida à l'âge de 35 ans. Et on se rend compte que son film n'était pas une fiction, mais l'histoire de sa propre vie.
C'est effectivement très triste et dommage parce que, bon,
On a du mal, oui, non, mais on a du mal à imaginer que les gens meurent comme ça si rapidement à cet âge-là, c'est évident. C'est vrai que ce film se termine sur quelque chose d'un peu positif, et donc c'est d'autant plus dur, effectivement, d'entendre ce genre de nouvelles après ça, quoi.
C'était ouais. Pour lui, c'était sans doute une façon de sortir ce qu'il avait, enfin, gros sur le cœur, mais il ne méritait pas ça, de toute façon, personne ne mérite ça.
Personne.
Non, je ne savais pas, non. Je viens de l'apprendre à l'instant, quoi. Je savais qu'il était atteint du sida et que... Et qu'un jour ou l'autre, ça lui arriverait, quoi. Mais je ne pensais pas que c'était si proche, quoi. J'ai trouvé ce film très, très fort, à tout point de vue. D'abord, c'est un très beau film. Bon, et je pense qu'il y a... c'est plein d'émotions, plein de... Je dirais même malgré la violence, plein de tendresse. Il n'y a que dans les dernières minutes qu'on sent comme un rayon d'espoir, quoi, comme une espérance.
Dans la foulée de l'annonce de la mort de Cyril Collat, les malades du sida lui rendent hommage.
Ce qu'il a fait, c'est un témoignage d'amour, de vie, de... C'est passionnant. En plus, bon, je suis également séropositif, donc je connais un petit peu le problème. Et il m'a complètement ouvert les yeux, il m'a permis de voir les choses en face.
Même s'il est mort, je l'aime toujours. Il a fait un film super. Sa personnalité, c'est quelque chose de mystérieux, de bizarre. Enfin, il a provoqué en moi quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer moi-même. Enfin, je l'aime, c'est tout. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous.
Trois jours après la mort de Cyril Collat, son film Les Nuits Fauves triomphe lors de la 18e cérémonie des Césars, puisqu'il récolte 4 récompenses. Meilleur film, meilleur premier film, meilleur montage et meilleur espoir féminin pour Romane Bourringer. Quand elle reçoit son César, la comédienne est submergée par l'émotion.
J'espère que t'es fière de moi, Cyril. Moi, si tu savais comme je suis fière d'avoir été ta Laura. Vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ma vie. Cyril, les nuits fauves, je les porte en moi pour toujours. Et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir. J'espère que tu seras toujours fière de moi. Et je suis sûre que là-haut, t'as déjà trouvé la pellicule et une caméra. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur.
C'était le rêve du pêcheur de Laurent Voulzy.
L'année 1993.
En 1993, la France du football est aux anges. Elle vient de décrocher l'organisation de la Coupe du Monde de football de 1998. Dans 5 ans, le Stade de France à Saint-Denis est déjà en construction. Mais en attendant, il faut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu l'année prochaine aux États-Unis. Ça ne devrait pas être trop difficile. Il suffira de faire un match nul en 2 rencontres. D'autant que le premier match va se jouer contre l'équipe la plus faible du groupe, Israël, Au match aller, les tricolores l'ont emporté 4-0. Pas de souci à se faire. Le jour du match, les supporters déploient un grand drapeau américain et la sono du stade crache du Joe Dassin. Le match n'est pas fabuleux, mais l'équipe de France et ses stars, David Ginola, Jean-Pierre Papin et Éric Cantona, tiennent le match nul. Et puis, arrive la toute dernière minute de jeu.
Attard.
Oh que j'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça.
Oh, Rosenthal.
Oh que je n'aime pas ça. Oh
et
que
but.
Je n'aime pas ça. Oh que
et
je n'aime pas ça.
Attard.
Oh que je n'aime pas ça.
On jouait les arrêts de jeu depuis 2 minutes et 40 secondes.
Oh que je n'aime pas ça.
2 minutes et 40 secondes après la fin du temps réglementaire.
Encore, c'est exactement la réplique du premier but sur ce centre de Rosenthal.
Débordement de Rosenthal, centre en retrait.
Et Attard.
Et voilà le match qui bascule du côté israélien, car là c'est pratiquement fini. On joue depuis 3 minutes et demie au-delà du temps réglementaire.
Quelle surprise!
Énorme surprise, énorme déception.
Défaite 3-2 contre Israël, c'est une humiliation. Les Français rentrent au vestiaire pantelants. Mais il leur reste un match pour se rattraper, contre la Bulgarie au Parc des Princes. Ça devrait passer. Mais la presse rapporte qu'il y a des bisbilles dans l'équipe. Les joueurs parisiens et marseillais seraient en froid. Rumeur balayée par le capitaine de l'OM, Didier Deschamps.
C'est sûr qu'on a un match capital à jouer, mais je crois pas qu'il faut que l'environnement prenne le pas sur notre performance. Je crois qu'il faut qu'on soit très maître de nous. Je crois que la maîtrise va être un élément capital dans ce match. Il faudra qu'on gère, qu'on soit patient. Il faut pas qu'on se laisse pousser par le public. Nous, bon, la manière, si on peut, on la mettra. Mais avant tout, il faut penser au résultat, parce qu'il y a que celui-là qui compte sur ce match-là.
C'est une soirée importante dans votre carrière.
Oui, c'est un match fabuleux, très excitant. D'ailleurs, à la sortie d'Israël, j'ai déjà pensé à celui-là. Et tous dans notre tête, même quand on est avec nos clubs, on pense à ces matchs-là. Parce qu'on savait, c'est le match de notre vie. Il peut nous offrir la récompense de jouer une Coupe du Monde. Bon, dans une carrière de joueur international, c'est capital. Donc à partir de là, ben, on s'est tous bien concentrés individuellement. On en a parlé collectivement. On a bien travaillé. Et bon, je crois qu'on est tous ensemble. On va être très soudés et puis bon, très solidaires. Et bon, je crois qu'on n'a pas le droit de passer à côté d'un tel rêve.
Le 17 novembre, Français et Bulgares sont au coude à coude. Un partout. Et puis arrive la dernière minute de jeu. La France obtient un coup franc dans le camp bulgare. Ça sent bon. Eh ben non, coup franc raté. Sur Europe 1, Eugène Saccomanno et Giroud n'en reviennent pas.
À une moins d'une minute de la fin du temps réglementaire, évidemment les Français ne vont pas se bousculer dans les 16 mètres adverses, vont rester en position défensive. C'est Vincent Guérin qui va les tirer ce coup franc et seul Cantona est devant les buts.
Cantona donc devant les buts, Guérin, c'est vrai qu'il n'y a que Canto. Les Français ont peur, ils veulent rester derrière. Et c'est finalement Ginola qui vient aider Guérin. Et il centre trop loin là-bas, au troisième, quatrième poteau, si j'ose dire, pour Cantona. Et les Bulgares peuvent récupérer cette balle. L'arbitre tarde à siffler. Nous sommes carrément dans les arrêts de jeu. Et là, attention, le rebut. Terrible. Les Bulgares sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est terrible. La Bulgarie va à la Coupe du Monde et un but extraordinaire, fracassant, qui nous abasourdit. C'est la fin du match. L'arbitre n'avait pas sifflé et ce but nous assomme, nous tue, Giroud. C'est terrible.
Finalement, la Bulgarie verra l'Amérique et pas la France. Et dans la foulée, un joueur est montré du doigt. David Ginola, l'attaquant star du Paris Saint-Germain et élément clé de l'équipe.
Ouais, c'est fantastique. Ginola fait un centre trop long. Quand on a réclamé la balle, Ginola fait un centre trop long. Les défenseurs bulgares ont récupéré. Le défenseur français s'est fait prendre de vitesse et dans un angle fermé. Il a mis un tir terrible sous la barre, inarrêtable. Je ne sais pas qui a marqué, mais c'est un exploit extraordinaire et c'est une déception formidable pour tout le football français.
D'autant que les Français étaient à quelques secondes du bonheur, à quelques secondes de la qualification. Et là, ce n'est plus possible, car l'arbitre qui n'avait pas sifflé en temps utile, car le temps était dépassé, maintenant on joue la 47e minute, donc il ne va pas tarder à siffler, ça y est, c'est fini. La France est éliminée, la France n'ira pas à la Coupe du Monde. C'est une terrible, terrible déception. Je vois là Marcel Desailly qui se prend la tête à deux mains. Il est complètement découragé. Il sort le premier. Tout le monde sort la tête basse.
Les supporters tricolores, eux, ne décolèrent pas.
On aurait dit les pieds nickelés qui jouent au Parc des Princes. C'est pas vrai?
Papa, ils vont prendre un coup de signe. Fafana, il a voulu faire son plaisir.
Toute l'équipe, il y a un gros ménage à faire. En commençant par l'entraîneur.
C'est honteux.
Je sais pas, ils n'avaient pas la pêche.
On leur payera peut-être un voyage gratuit quand même pour aller voir les autres jouer. Comme ça, ils n'auront rien perdu. Ils auront un match gratos encore.
Ça va peut-être vous, comment dirais-je, vous surprendre. Mais j'ai applaudi à deux mains lorsque les Bulgares ont gagné le match.
Perdu la France.
C'est vrai?
Non.
Oh, dites alors.
L'équipe qu'ils ont eue contre eux, ils avaient faim. Et ils avaient besoin de gagner. Toute la différence est là.
Les Bulgares étaient plus affamés.
Ah oui, bien sûr. Ça se voyait. Hein. Ils en voulaient.
On ne sait pas jouer au ballon. On est des charlots.
Accusé d'être responsable de la défaite française, David Ginola s'exile en Angleterre, où il écrira une magnifique page du football anglais. Quant au sélectionneur Gérard Rouillet, il est viré, remplacé par Aimé Jacquet.
Une mission telle que ceci ne se refuse pas. Pour moi, qui suis depuis pas mal d'années dans le football, c'est un challenge extraordinaire. Je ne le cache pas. Et puis deuxièmement, ça m'a un petit peu chagriné de voir tout ce qui se passait autour du football. Et j'ai dit pourquoi pas, pour calmer le jeu, pour essayer, je dirais, de redonner sérénité et tranquillité à tout le football, pourquoi pas prendre ce poste-là? Et puis après, on verra bien.
Personne ne mise un copec sur ce nouveau sélectionneur très discret et très humble. Et pourtant, c'est lui, Aimé Jacquet, qui 5 ans plus tard décrochera le premier titre de champion du monde du football français. D'ACDC qui ressort en 1993. Le titre est la bande originale du film américain Last Action Hero. On de la traconte vous propose la suite de notre exploration de l'année 93 dans le 3e épisode.
That's what I call action.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.